comme chaque vendredi, on vous propose un essai qui a marqué l'histoire de la pensée économique. Aujourd'hui, place à la théorie des sentiments moraux d'Adam Smith. Bonjour Laurie Préban.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, maîtresse de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du laboratoire Phare. Alors on le sait, Adam Smith est considéré comme le père de l'économie classique, mais c'est avant tout un philosophe des Lumières, comme en témoigne son premier essai, La théorie des sentiments moraux, donc, qui a été publié en 1759. C'est un Adam Smith philosophe plutôt qu'économiste que l'on a à faire ici.
Oui, effectivement, donc c'est le premier ouvrage publié d'Adam Smith, qui paraît une première fois en 1759 et qui s'appuie sur son cours de philosophie morale donné à l'université de Glasgow. Et alors c'est un ouvrage qu'il considère comme sa plus importante contribution, puisqu'il va le retravailler toute sa vie, durant jusqu'en 1790, soit 14 ans après La richesse des nations. Donc voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on connaît mieux La richesse des nations, mais à l'époque, sa contribution majeure, c'est la théorie des sentiments moraux.
Et alors comment la morale se construit-elle chez l'individu, selon Smith ?
Alors, la théorie des sentiments moraux, effectivement, elle cherche à expliquer la manière dont on juge les autres et la manière dont on se juge soi-même. L'ambition étant d'expliquer comment on parvient à vivre en société, ensemble, en ayant en tête les mêmes normes du bien et du mal. Et cet ouvrage s'appuie donc, pour expliquer ça, sur deux concepts clés. Le concept de sympathie que Smith reprend à son ami et prédécesseur David Hume, pour expliquer la manière dont on juge précisément le comportement des autres. Et à cela, il va ajouter le concept de spectateur impartial pour expliquer la manière dont on se distancie, comment on adopte une attitude réflexive vis-à-vis de nous-mêmes pour juger de nos propres comportements.
Alors pour commencer, en quoi consiste la sympathie dont parle Adam Smith ? En quoi est-ce qu'il enrichit ce concept ?
Alors, il enrichit ce concept parce que la sympathie chez Hume, on a coutume de considérer qu'elle a un caractère plus contagieux, c'est de la contagion émotionnelle. D'accord, vous êtes joyeuse, immédiatement, en vous voyant joyeuse, je suis joyeuse. Alors que Smith ajoute une dimension cognitive au principe de sympathie. Ça va pas être de la contagion émotionnelle. Il va y avoir tout un processus qui va mobiliser l'imagination pour que je m'identifie à vous. Donc je vais me mettre à votre place dans votre situation et imaginer ce que vous ressentez dans votre situation. Bon, c'est plus complexe.
On parle de sympathie, mais on pourrait tout aussi bien parler d'empathie.
Moi, je pense qu'on peut pas réduire le principe de sympathie à de l'empathie aujourd'hui, parce que l'empathie, à la manière dont on la considère aujourd'hui en économie, elle a vraiment qu'une dimension cognitive, alors que la sympathie chez Smith, elle s'appuie sur un processus cognitif qui permet de prendre connaissance des émotions d'autrui, mais elle explique aussi comment ces émotions nous affectent. Donc, il y a un caractère émotionnel.
Alors, vous l'avez dit, il crée aussi cette figure du spectateur impartial. À quoi correspond cette figure ? C'est peut-être une forme de jugement intériorisé de la société ?
Absolument. C'est grâce à la sympathie que je vais juger des comportements des autres. Je vais me mettre à leur place. Je vais essayer de comprendre pourquoi ils ont eu telle réaction et je vais essayer de voir si moi-même dans cette situation, j'aurais adopté le même comportement. Et si je n'avais pas adopté le même comportement, eh bien je désapprouve cette réaction. Et à partir de là, je vais construire une norme comme quoi tel comportement génère tel type de désapprobation. Et je vais me fixer comme règle de ne jamais être victime de la même désapprobation. Et c'est comme ça que je vais construire petit à petit mon spectateur impartial, qui va être la norme à partir de laquelle je vais me juger.
Chacun a un spectateur impartial différent, si je puis dire.
Chacun a un spectateur impartial. Je dirais pas qu'il est, enfin, il est évidemment pas exactement le même pour tout le monde, puisque on le construit au gré de nos interactions sociales et on n'a pas tous exactement les mêmes interactions sociales. Mais on tend quand même vers quelque chose de similaire, sinon on pourrait pas vivre ensemble.
Et alors, il y a aussi des cas que relève Adam Smith où on ne sollicite pas en soi ce spectateur impartial. Quels sont ces cas, Laurie Préban ?
Alors, il y a deux situations dans lesquelles on ne parvient pas à faire appel au spectateur impartial pour juger notre comportement et savoir si ce qu'on est en train de faire est bien ou mal. La première situation, c'est la situation dans laquelle on vit soit seul, pas en société, isolé.
Donc les ermites n'ont pas de spectateurs impartiaux.
Pour Smith, les ermites n'auraient pas de spectateurs impartiaux. Et toujours dans le même ordre d'esprit, des personnes qui vivraient avec des gens qui sont extrêmement indulgents avec elles. Donc à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, mais c'est pas de ta faute, c'est pas grave, etc. Dans ce cas-là, on n'a pas affaire à des spectateurs impartiaux, mais à des spectateurs partiaux. Et donc on n'apprend pas à agir de manière morale. On se laisse dépasser par nos passions, parce que ceux avec qui on vit considèrent que ce n'est pas digne de désapprobation. Le deuxième cas de figure, c'est celui du mensonge à soi-même. C'est-à-dire que, voilà, quand on vit au jour le jour, on voit très bien, on a une idée de ce qui est bien, de ce qui est mal, mais quand on va être sous l'emprise d'une passion, on va avoir tendance à se raconter une histoire pour justifier la passion et agir finalement de manière... d'une mauvaise manière. Donc, c'est ce que Smith appelle le mensonge à soi-même.
Et alors, ça caractérise par exemple les hautes sphères du pouvoir ou les hautes sphères de l'argent,
voilà,
où on est entouré de gens complaisants, c'est ce que dit Adam Smith ?
Oui, c'est exactement ça, ouais, effectivement.
Et alors, quels enseignements est-ce que Adam Smith retire de la comparaison qu'il va établir entre la pauvreté et la richesse et entre ce qu'il appelle d'un côté la condition la plus humble et de l'autre la condition la plus exaltée ?
Alors, ce qui est intéressant dans la théorie des sentiments moraux, c'est que Smith considère que le riche n'est pas plus heureux que le pauvre, même si on peut en avoir l'impression, c'est une vue de l'esprit. Quand on est riche, on n'est pas plus heureux que le pauvre, et ça, c'est lié précisément à l'influence du spectateur impartial. Smith considère, ça peut paraître très curieux, que y a un état ordinaire de bonheur commun au genre humain, qu'il y a très peu de gens qui n'ont pas cet état ordinaire de bonheur, parce que ils se confrontent tous au spectateur impartial et que d'après le spectateur impartial, on peut être également heureux dans n'importe quelle situation. Donc là, il y a une influence un peu du stoïcisme dans la vision de Smith concernant le bonheur.
Et la richesse ne change rien à cela.
Alors, d'après le spectateur impartial, c'est frivole que de considérer que la richesse est source de bonheur. Le bonheur s'appuie sur la vertu, pas sur la richesse. Même si on peut en être très heureux temporairement, on va finir par se confronter à nos semblables, grâce auxquels on construit le spectateur impartial, et réaliser que pour eux, la richesse ne fait pas le bonheur. Enfin, on connaît tous ce proverbe, c'est un proverbe populaire, que la richesse ne fait pas le bonheur.
Et peut-être que pour expliquer cela, Adam Smith passe par une distinction entre plaisir et bonheur.
Pour Smith, le bonheur est fait effectivement de plaisir. Mais ce plaisir n'est accessible que si on est tranquille. Voilà. Donc il y a deux ingrédients au bonheur, nous dit-il, la tranquillité et le plaisir. La tranquillité, c'est ce qui va permettre d'avoir plus ou moins de plaisir à notre disposition. Et la tranquillité, on l'a quand on est vertueux. Donc, plus on est vertueux, plus on a de sources de plaisir qui sont accessibles.
Mais alors, est-ce que ce n'est pas théorique ? Est-ce que dans la réalité, on ne constate pas que le bonheur est plus important quand le revenu est aussi plus important ?
Justement, en économie, on a tendance à parler d'un résultat plutôt récent au regard de l'existence de la discipline. Le paradoxe d'Easterling, qui montre que certes, dans un pays à court terme, les riches sont plus heureux que les pauvres, mais dans le temps, on ne constate pas de relation entre richesse, enfin je crois le PIB par tête, et le bonheur moyen déclaré. Donc c'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Easterling.
Et c'est quelque chose qu'il a démontré de manière empirique en 1974, c'est ça ?
Exactement.
Richard Easterling travaille sur les liens entre bien-être et PIB par habitant. Est-ce que ce qu'il démontre finalement, c'est que davantage d'argent rend plus heureux, mais jusqu'à un certain seuil ? Et alors, est-ce qu'il définit ce fameux seuil ?
Alors effectivement, il y a un seuil à partir duquel les besoins, les besoins de base sont... satisfait, à partir duquel la richesse ne contribue plus au bonheur. Alors évidemment, tout ça, ce sont des enquêtes qui ont été aussi discutées. Donc c'est pas un résultat sur lequel tout le monde est d'accord, mais c'est un résultat connu des économistes.
En quoi la théorie des sentiments moraux permet-elle, selon vous, à Laurie Brébant, de mieux comprendre la recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, qui est, vous l'avez dit, l'ouvrage le plus célèbre d'Adam Smith ?
Souvent, on évoque le lien entre l'ouvrage, enfin la théorie des sentiments moraux et la richesse des nations pour montrer qu'il y a une compatibilité entre les deux, parce que pendant longtemps, on a cru que les deux ouvrages étaient incompatibles avec un principe de sympathie qui ne serait pas cohérent avec la vision égoïste qui serait présente dans la richesse des nations.
C'est le fait de promouvoir à la fois l'enrichissement dans la richesse des nations et le fait de dire qu'effectivement, richesse et bonheur ne sont pas vraiment compatibles dans la théorie des sentiments moraux.
Ça, c'est un deuxième point. En fait, le premier, pendant longtemps, on a opposé les deux ouvrages en disant que Smith proposait une vision altruiste dans la théorie des sentiments moraux, alors qu'il proposait une vision égoïste dans la richesse des nations. On a résolu ce cette incohérence. Grâce à des recherches qui ont eu lieu dans les années 70, on a retrouvé des notes de cours d'étudiants de Smith qui ont permis de résoudre ce paradoxe.
Et on l'a résolu comment, en quelques mots ?
Ben, on a montré, tout simplement, on a compris que la sympathie, c'était pas de l'altruisme, d'accord ? Ce qui la rend compatible avec la défense de l'intérêt personnel comme moteur des actions. Même si pour Smith, l'intérêt personnel, ce n'est qu'un motif de l'action, il y en a plein d'autres. L'être humain n'est pas mu que par son intérêt personnel. Et on a aussi montré que Smith dans La richesse des nations ne parle pas d'égoïsme, mais bien d'intérêt personnel. Donc voilà, ça a rendu compatible les deux ouvrages. Mais il y a un autre problème. Voilà, il y a un autre problème qui est apparu, c'est qu'effectivement, dans la théorie des sentiments moraux, Smith nous dit, finalement, la richesse ne contribue pas au bonheur. Donc ça a donné lieu à un nouvel Adam Smith problème qu'il faut résoudre. Comment Smith peut-il promouvoir la richesse des nations tout en considérant que la richesse ne fait pas le bonheur ?
Et pour vous, il y a une incompatibilité fondamentale ici ?
Alors, il y a quelque chose qui pose question, oui, mais je pense qu'on peut résoudre ce problème en considérant que dans la théorie des sentiments moraux, Smith parle à un moment donné, décrit la société de son temps, tandis que dans La richesse des nations, il cherche à promouvoir un autre système avec des institutions plus égalitaires. Et ce que j'ai cherché à montrer dans mes travaux, c'est que finalement, si on considère que la richesse ne fait pas le bonheur, c'est parce qu'il y a des inégalités qui conduisent les pauvres à admirer les riches et les riches à y perdre quelque chose aussi, puisque certes, ils sont admirés, mais ils ne disposent plus d'une liberté personnelle. Quand vous êtes riche et célèbre, vous êtes admiré de tous, regardé en permanence, et vous n'avez plus de vie privée. Et ça, Smith dit que c'est dommageable. Donc si on parvenait à promouvoir une société plus égalitaire, finalement, ce problème serait amené à disparaître. Et peut-être, c'est une piste, c'est pas voilà, peut-être qu'on pourrait considérer que la richesse... dans ce cas-là, fait le bonheur.
Donc si tout le monde s'enrichit, ou du moins a la possibilité de s'enrichir, richesse et liberté personnelle deviennent compatibles.
Exactement.
Merci beaucoup Laurie Brébant d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je précise pour les auditeurs que la théorie des sentiments moraux d'Adam Smith a été rééditée aux éditions Payot et Rivage. Un grand merci.